Vocation Entrepreneur, c'est votre bulle introspective en psychologie des femmes entrepreneurs. Pour cet épisode 13, j'ai invité Emma, d'Ambition Féminine, entrepreneur sur le web, spécialisée en affiliation et en copywriting. Elle va vous révéler ses secrets pour avoir un mental de guerrière dans votre parcours entrepreneurial.
Dans la vie, on croit toujours qu'il faut choisir. Soit tu portes ton voile, soit tu travailles. C'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. Soit t'occupes de tes enfants, soit tu travailles, mais c'est pas les deux. En fait, je me suis aperçue qu'on peut ne pas choisir. Et avec l'entrepreneuriat, ça te permet d'assumer tes choix, d'assumer tes valeurs. Et ça, pour moi, en fait, quand tu découvres ça, bah, tu peux que être enthousiaste.
Dans cette interview, vous allez découvrir une entrepreneur qui a un mental de guerrière. Elle croit tellement en ses projets qu'elle arrive à convaincre ses clients et ses partenaires de travailler avec elle. Emma n'était pas vouée à être entrepreneur. Après son bac plus 5 en droit, elle commence un parcours de cadre salarié classique avant que ses projets soient bouleversés par sa maternité. Sa vocation d'entrepreneur se révèle lors de son expatriation au Maroc. Et depuis, plus rien ne l'arrête. Vous allez découvrir que pour vendre sereinement, vous avez besoin de croire en la valeur de vos produits. Dans son témoignage, Emma explique comment elle a abordé l'entrepreneuriat et c'est loin de ce qu'on imagine quand on débute dans le business. Sa principale force, foncer droit devant sans regarder ce qui se passe autour. Mais là, je vous en ai un peu trop dit. Allez, place à l'interview de 45 minutes. Emma, bonjour.
Hello Ayette, comment vas-tu?
Ça va, merci. Bienvenue sur le podcast Vocation Entrepreneur.
Merci, merci à toi de l'invitation.
Ah, c'est un grand honneur pour moi. Alors Emma, tu es entrepreneur sur le web depuis 2018, spécialisée en affiliation et en copywriting. Et tu es la créatrice du blog Ambition Féminine, donc un blog spécifiquement féminin qui aide les mamans à trouver leur vocation sur le web à travers l'infopreneuriat. Alors, tu es la deuxième juriste que je reçois ici. Bon, c'est pas fait exprès, mais j'en rencontre beaucoup en reconversion professionnelle et sur des domaines qui n'ont rien à voir avec le droit. Et la particularité avec toi, Emma, c'est que je t'ai connue avant que tu sois connue.
C'est vrai. Je m'en rappelle très bien.
Voilà, exactement. Et c'est ce qui fait que j'ai pu suivre quasi au jour le jour ton cheminement. Et aujourd'hui, tu es une référence en matière d'affiliation. Alors, je t'ai invité aujourd'hui parce qu'il y a une chose qui m'interpelle chez toi, c'est ta relation à l'argent. Je sais qu'aujourd'hui, on touche à un sujet sensible chez les femmes et tu vas nous donner ta façon de voir les choses et tes conseils pour évoluer dans ce domaine parce que sans relation saine avec l'argent, on peut pas bien évoluer en tant qu'entrepreneur. Mais avant ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai l'habitude de démarrer les interviews par des sujets un peu plus cool, quoi. Ouais. Et je ne sais pas ce que vous avez, les filles, mais vous êtes une grande majorité à être fascinée par le modèle Brie Van de Kamp de Desperate Housewives. Alors, Emma, dis-nous tout.
Je dis déjà, je vois que tu suis mes stories.
Ah oui, oui, tout à fait. Non, mais quand j'interviewe quelqu'un, c'est que la personne m'intéresse et que, effectivement, je fréquente un peu son univers. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui t'attire chez Brie Van de Kamp et qu'est-ce qui attire tant les femmes dans ce modèle-là de Desperate Housewife?
Alors, c'est pas tout le personnage quand même, parce qu'on va pas oublier qu'elle a quand même son côté complètement névrosé, alcoolique, oui. Etc. Donc, cette facette-là ne me fascine pas du tout. Mais c'est vrai que moi, c'est le côté la maison toujours bien tenue, les bons petits plats, bien organisé, tout est carré, tout est nickel. Voilà, ça, tout le contraire de ce que j'ai chez moi, quoi.
Toi, donc, tu te fixes un objectif très haut niveau pour pouvoir l'atteindre, quoi, pour pouvoir te dire, allez. Je vais me pousser au maximum pour pouvoir atteindre ce modèle parfait.
Alors, à vrai dire, si on parle que de Brie Van de Kamp, j'ai même pas l'ambition de l'atteindre parce que je suis pas comme ça. Donc, oui. Je sais que je suis assez réaliste sur moi-même. Je sais que je serai jamais comme ça.
Oui.
Mais en tout cas, j'aimerais bien quand même arriver à plus d'organisation et voilà pour avoir une vie plus sereine, ça. Voilà, mais pas effectivement, objectivement, je sais que je ne serai jamais comme ça parce qu'on est comme on est, on se connaît.
Oui, oui.
Le côté psychorigide, je ne suis pas psychorigide, donc ça ira pas jusque-là. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien plus le mode de vie, voilà, bien organisé, ta maison, elle est toujours bien rangée, tout bien carré, tu sais quand tu dois faire telle ou telle chose. Ça,
c'est rassurant.
Ouais, c'est rassurant. Et puis, c'est même en tant que maman, bah, c'est bien aussi, je trouve, d'offrir un cadre avec des repères à ses enfants, etc. Enfin, voilà, y a
oui, et puis bon, ça donne quand même une belle image de la femme, parce que Brine Van de Kamp, elle est aussi entrepreneur. Au bout d'un moment, elle en a marre de faire des gâteaux. Et puis, elle ouvre sa boîte sur ses propres compétences. Donc, c'est vrai, quelque part, ça te ressemble un petit peu.
Ouais, il y a un petit côté, sauf le côté, je te dis, le côté psychorigide, névrosé, je ne crois pas. Mais effectivement, dans ce côté-là, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, parce que c'est vrai que quand tu regardes mon parcours, de base, bon, donc tu l'as dit, j'ai fait du droit, j'ai été salariée, après j'ai tout arrêté au moment de devenir maman, parce que pour moi, justement, j'avais un peu cet idéal de vie, de me dire, je m'occupe de mes enfants, mon foyer, on est... allez, pour ne pas reprendre Brie Van de Kamp, la petite maison dans la prairie, quoi, tout est beau, tout est rose, on est tous ensemble, tout est bien, et sauf qu'en fait, effectivement... au début, oui, voilà, j'ai mis en place ces petites activités Montessori, je faisais des petits plats, les machins, j'étais contente de ça. Sauf que, rapidement, finalement, je me suis rendu compte que ça me suffisait pas. Et en fait, je m'épanouissais pas totalement. En fait, il me manquait quelque chose. C'est pas que ça ne m'épanouissait pas du tout.
Oui.
Mais il me manquait quelque chose. Et effectivement, quand on se lançait dans l'entrepreneuriat, finalement, c'était ma petite bouffée d'air frais.
Oui.
De voilà, je faisais mon truc à moi, j'ai mon projet à moi, j'avance. Enfin,
oui, une stimulation intellectuelle. Il y a quelque chose d'excitant, quoi.
Ouais. Tout à fait. Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est intéressant le côté stimulation intellectuelle, parce que c'est, je pense, qu'il y a vraiment de ça. Parce que même quand j'étais maman au foyer, je continuais toujours à me former tout, sur des choses rien à voir, sur la parentalité, sur la parentalité, les activités Montessori, tout ça. J'avais un projet peut-être de faire l'instruction en famille. Je me formais là-dessus. Moi, du coup, je prenais aussi des cours d'arabe, parce que comme je vis au Maroc, enfin voilà.
Oui, c'est pour l'intégration, oui.
Donc, je continue à me former. J'ai toujours besoin de cette stimulation intellectuelle. Et dans l'entrepreneuriat, en fait, ton cerveau, il est nourri.
C'est même tellement stimulant que des fois, il faut lui dire stop, parce que la nuit, on ne dort plus, quoi.
Ouais, carrément.
Ouais. Non, mais c'est vrai, hein, je confirme.
Non, c'est vrai.
Donc, des fois, si on ne s'arrête pas de réfléchir, si on ne se dit pas 19h stop, ça ne s'arrête pas, quoi.
Ouais. Et c'est fatigant.
C'est fatigant, exactement. Alors, Emma, j'aimerais revenir avec toi à un moment auquel j'ai assisté en tant que spectatrice, pour le coup. Ouais. C'est lors de ton premier lancement des Reines de l'Affiliation. Donc, c'est ta première formation. C'était fin 2018, je crois.
C'est ça.
Et je me souviens bien, tu me dis si je me trompe, que tu as fait des pieds et des mains pour faire connaître ta formation et réussir à la vendre. Alors, je me souviens, il n'y avait pas grand monde à l'époque qui croyait en toi, à part toi-même. Et si tu avais compté sur le nombre de soutiens, je crois que tu aurais lâché l'affaire. Et pour moi, tu représentes cet entrepreneur qui lâche rien. La battante, ouais. La guerrière, c'est du genre, on te ferme la porte, tu passes par la fenêtre, on te ferme la fenêtre, tu passes par le toit.
C'est vraiment ça, c'est vrai en plus.
Bref, tu avais une détermination que tu as toujours, mais de folie. Et honnêtement, il y en a beaucoup, dont moi, qui auraient lâché l'affaire à ta place. Et j'aimerais que tu nous dises, qu'est-ce qui te poussait à ce moment-là à y aller sans te poser de questions ?
En fait, c'est que moi, j'y croyais tout simplement, quoi. Franchement, c'est juste ça. J'étais tellement... Parce que ma formation, finalement, c'est... Et c'est tout ce que je fais, en fait, dans mon parcours Ambition Féminine depuis le départ. En fait, je ne fais que retransmettre ce que moi-même j'apprends et ce que je trouve génial pour moi-même. Je me dis, mais attends, je ne peux pas garder ça pour moi, c'est trop génial, il faut que je partage. Et donc finalement, avec les Reines de l'Affiliation, quand je l'ai lancé, ça avait marché pour moi. Donc pourquoi ça ne marcherait pas pour les autres ? Donc même si les autres, tu vois, ouais, mais attends, tu n'as pas assez d'abonnés, tu n'as pas assez, t'as liste email à personne, off, bof, l'affiliation, qui ça va intéresser ? Moi, j'y croyais, moi, je trouvais ça génial. Donc si moi, ça avait marché pour moi, si moi j'avais été convaincue par ça, pourquoi ça n'aurait pas été bon pour d'autres, quoi. Donc à partir de là, je ne me suis pas posé de questions. Et en fait, moi, dans tout ce que je fais, à chaque fois, je me dis, si moi j'y crois, j'y vais, je vais jusqu'au bout. Si je me plante, c'est pas grave. Au pire, j'aurais pas de regrets. Mais je préfère me planter que me dire, ah, mais si j'avais fait, est-ce que ça aurait marché? Peut-être oui, que. Oui. Tu vois, je me dis, en fait, moi, j'y crois, j'y vais jusqu'au bout. Ça marche. Mais tant mieux. Ça marche pas, tant pis.
D'un point de vue mental, tu es une exception statistique. Tu vois, parce que. Non, mais sérieusement, d'habitude, ce que la majorité des gens, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, hein, mais ce que la majorité des gens font, c'est « Ok, ça a marché pour moi, et pourquoi ça marcherait pour les autres ?» Donc, le syndrome de l'imposteur en force. Et chez toi, c'est « Ah, ben, ça a marché pour moi, pourquoi ça ne marcherait pas pour les autres ?» Donc, tu inverses en fait le mécanisme, et c'est ça qui est super intéressant. Et est-ce que tu avais d'autres sources de motivation que le fait d'y croire?
Vraiment, je pense que vraiment le principal, le moteur principal pour moi, vraiment, c'est ce truc-là de. Et puis tu sais, je vais t'avouer, je suis un peu toquée. Je suis un peu un monk. Et en fait, c'est-à-dire que moi, si je t'ai planifié que j'allais faire ça,
oui.
À telle date, tel moment, il faut que ce soit fait. Si c'est pas fait, ça va pas aller. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, moi, je m'étais fixé mes objectifs, mes trucs. Et je ne te cache pas, à cette époque-là, de toute façon, les personnes qui me suivaient à l'époque sur Instagram le voyaient bien, je ne dormais pas, j'ai passé des nuits sans dormir.
Oui, oui, oui.
Parce que j'avais prévu qu'à tel moment, il fallait que ce soit fait. Tu vois, je m'étais lancée sur le défi sur Instagram. J'avais annoncé en septembre, je crois, que je me donnais 6 semaines pour lancer ma formation. Au final, au bout de 6 semaines, je l'avais créé, mais je l'avais pas lancé. Il m'a fallu encore un mois et demi derrière pour faire le lancement.
Comment tu vis ça quand tu es en retard comme ça sur tes objectifs?
Alors là-dessus, j'ai un peu évolué, mais à l'époque, je t'aurais dit, il y a un petit côté un peu de fierté, tu vois, vu qu'en plus tu l'annonces publiquement que tu vas le faire. De pas y arriver, déjà, il y a le côté un peu frustré mince, j'ai pas. Et puis un petit peu d'ego aussi de dire mince, j'ai dit que j'allais faire et j'ai pas fait. Mais quand même, je m'étais rassurée en me disant oui, mais je l'ai créé en 6 semaines, donc au moins je me suis tenue là-dessus.
Et qu'est-ce qui t'a adouci au fil des années? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris en maturité?
Là, tu vois, c'est vrai que maintenant. En fait, avec le Covid, là, la période, en fait, cette période-là, je pense qu'elle a fait relativiser beaucoup, moi y compris, parce que au début du Covid, c'était pour moi un peu la cata, parce que les enfants qui reviennent à la maison, et j'avais plein de projets. Pour te dire, je m'étais projetée pour moi de terminer la refonte de ma formation et de la relancer avant l'été. J'avais pour projet de créer une nouvelle formation sur Instagram. J'avais plein de choses prévues. Mmh. Et sauf que clairement, avec les enfants à la maison et tout le boulot que j'avais à gérer aussi à côté, parce que plus ton entreprise grossit, plus tu as plein de tâches à côté qui sont hyper chronophages et tu peux plus te concentrer uniquement sur la création de contenu. Enfin, j'arrivais plus. Et à un moment donné, au début, donc je dormais pas, pareil, je me suis remise à faire des nuits blanches, à bosser comme une tarée. Et après, je dis attends, stop, tu as tes enfants à la maison, ils ont besoin de toi. Est-ce que aujourd'hui tu manques de quelque chose? Si tu bosses moins, est-ce que tes enfants n'auront plus à manger dans leurs assiettes? Est-ce que tu vas te retrouver dehors? Non. Donc, ok.
C'est vrai que ça, au début de ton aventure, c'était aussi ça qui te poussait, c'est-à-dire que tu n'avais pas de revenus. Tu t'étais installée au Maroc et tu n'avais pas de revenus, donc c'était une urgence.
Alors au tout départ que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, avant même de parler de ma formation les reines de l'affiliation. Au tout départ, effectivement, il y a ce côté-là qui a été, qui a certainement été la cause du fait que j'ai entre guillemets déplacé des montagnes. C'est que effectivement, on s'est retrouvé. Donc moi, j'avais plus de revenus on s'est installé au Maroc en 2016. Donc moi, à partir de ce moment-là, je travaillais plus. C'est mon mari qui avait une entreprise d'import. Il importait de la marchandise de France à revendre au Maroc. Et en 2018, donc là, ce qui s'est passé, c'est que sa marchandise a été bloquée en douane pendant plusieurs mois. Donc, pas de marchandise, pas de vente. Il y avait des gens qui lui avaient prêté de l'argent pour acheter une partie de la marchandise qui commençait à devenir pressant pour retrouver leur argent, ce qui est normal. Et au final, quand il a enfin pu retrouver sa marchandise, il a eu en plus une amende par-dessus. Il a vendu à perte pour rembourser les gens à qui il devait de l'argent. Donc bref, on s'est retrouvé sans revenu et 10 000 euros de dette sur le dos qui ouais. devait encore être remboursée. Voilà.
C'était pas les meilleures conditions, quoi.
C'était pas les mêmes meilleures conditions, sachant que voilà, au Maroc, tu peux pas, t'as pas une assistante sociale au oui. coin de la rue chez qui est frappée, qui va te dire, qui va te filer des tickets resto, et puis tu vas pas trouver des APL, tu vas pas avoir, enfin voilà, il y a c'est l'école, faut oui, payer, la santé, faut payer, tout. Oui,
Je comprends tout à fait parce que tu sais, moi, je suis d'origine marocaine et je connais un peu la mentalité, et je connais un peu les conditions de vie au Maroc. Et qu'est-ce que t'as? Est-ce que tu penses que, d'un point de vue culture entrepreneuriale, au Maroc, est-ce que c'est différent d'ici en France? Est-ce que les conditions de vie font que, bah forcément, on ne va pas... Est-ce que toi, tu aurais été la même entrepreneur en France, par exemple, si tu n'avais pas eu...
Clairement, tu vois, c'est à ça que je voulais en venir quand je racontais mon parcours, c'est que moi, si je n'avais... après, on ne sait pas, c'est que des si. Oui. Mais me connaissant, en France... avec la même situation, on aurait frappé à la porte de Pôle emploi, on aurait, tu vois, on aurait le côté un peu l'assistanat qu'il y a en France. Et en fait, tu sais, en partant de France, je me disais, ah, quand même, en France, on a cette chance d'avoir des aides et tout, on ne sera jamais dans la mouise. Et en fait, maintenant, avec le recul et tout ce que j'ai vécu, je me dis, mais en fait, ces aides, c'est tellement pas une aide, en fait, ça t'enchaîne et ça fait que tu te dépasses pas. Parce que là, le fait de nous être vraiment retrouvés au fond du trou, entre guillemets, même s'il y a toujours pire que nous, le fait de s'être retrouvé dans cette situation-là, en fait, j'avais pas le choix de trouver une solution. Il n'y avait pas le choix. Donc, j'ai cherché partout. Tandis qu'en France, mon mari serait parti travailler, les week-ends à l'usine. On aurait trouvé de la débrouille dans le salariat. Je ne serais pas devenue entrepreneur, je ne pense pas. Parce que, en plus, ma mère, elle me disait tout le temps, mais pourquoi tu t'entreprends pas Ma maman me connaît quand même assez bien. je te vois avoir ton truc à toi. T'as les épaules pour ça. Tu piges bien les choses. Je te vois bien entreprendre. Et moi, mais jamais de la vie. Gérer des stocks, gérer des salariés. La galère. Je me vois pas du tout faire ça. En fait, je voyais le côté comptable, contrainte et tout ça. Parce que j'avais pas idée de tout ce qu'il y avait d'autre. Comme possibilité, le business en ligne, je ne savais même pas que ça existait. Moi, quand je voyais des liens sur des blogs, je me disais juste, c'est cool, c'est une nana qui a du temps et puis qui partage. qui est sympa. Et les personnes qui le font sont effectivement sympas et prennent du temps pour partager, mais il y a aussi le côté qu'on peut en vivre. Et ça, c'est... Donc, tu peux vivre de quelque chose que tu aimes. Et ça, pour moi, je ne l'imaginais pas une seconde.
Ça, c'est vrai que c'est exceptionnel. Et souvent, tu sais, aujourd'hui, pourquoi je compare la France et le Maroc? Parce que souvent, en France, on fait beaucoup de posts sur la motivation, trouver la motivation pour entreprendre, etc. Mais des fois, la motivation, c'est elle qui te trouve. Donc, quand t'as pas le choix...
Mais c'est ça.
Quand t'as pas le choix, t'y vas et tu te poses pas trop de questions. Le syndrome de l'imposteur, c'est terminé. La légitimité, c'est fini. Et c'est vrai que...
Moi, tu vois, personnellement, en tout cas, même si j'avais pas le choix, la question de la légitimité et tout ça, moi, je me la posais à fond. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la filiation, en fait, j'ai trouvé ça génial, c'est que ça m'enlevait ce problème de légitimité. Tu vois, quand j'avais commencé à lancer Ambition Féminine, il y avait Lucie Rondelet, donc, qui nous a formés à la rédaction web, qui m'avait dit, mais t'as un talent pour le copywriting, lance-toi là-dedans, crée une formation là-dessus, il n'y a pas assez de formation en francophonie sur le copywriting, t'as un talent là-dedans, vas-y, fais-le. Et moi, à l'époque, j'ai dit, mais non, enfin, je me vois pas former des gens alors que je commence tout juste, j'ai pas... Non, je me sens pas capable de ça, pourquoi pas, je garde l'idée en tête pour plus tard, mais pour l'instant, je me vois pas faire ça. Et puis voilà, l'affiliation, pour moi, ça a été génial parce que je pouvais recommander des formations de gens que j'estimais être légitimes à faire ce que je me sentais pas légitime à faire.
Et toi, tu as commencé avec ce que tu pensais être légitime pour toi, parce qu'il faut bien commencer, par quelque chose, quoi. Et toi, tu l'avais fait, et puis effectivement, mais après, j'ai quand même vu que une fois que tu étais lancée, les problèmes de légitimité, après de ce qu'on voit de ta communication, ne se posaient plus trop.
En fait, il se posait plus à partir du moment... Alors, quand j'ai sorti ma formation, j'étais assez transparente. Tu vois, j'avais mis à l'époque, quand j'ai sorti ma formation, j'avais gagné à peu près 5000 euros de commission en 6 mois. Oui. Tu vois, c'est pas non plus... c'est un chiffre qui peut être beaucoup pour certains, mais qui en soi n'est pas aussi impressionnant que les chiffres que je pourrais donner aujourd'hui ou que d'autres oui. entrepreneurs peuvent donner en affiliation. Donc, j'ai pas vendu mon émerveil. Je dis, voilà, moi, ce que je vous donne dans cette formation, c'est ce que j'ai appris en 6 mois, que j'ai monté un business, ça m'a rapporté tant en tant de temps. Donc, voilà. Puis j'avais mis un prix, tu vois, vu que tu voulais qu'on parle d'argent, j'avais mis un prix qui me semblait assez bas et qui me permettait de pas être... de ne pas me sentir justement, tu vois, imposteur, parce que je ne leur demandais pas 1000 euros pour la formation. Tu vois, c'était un prix qui me semblait correct, comparé à ce qu'ils pouvaient gagner derrière, comparé à moi, tous les investissements que j'avais faits pour acquérir les connaissances que je mettais dans cette formation. Donc voilà, ça m'aidait à ne pas me sentir imposteur. Et puis après, en fait, c'est quand je vois mes élèves qui ont des résultats, quand je vois tous les retours de mes élèves, en fait, c'est ça qui, après, a complètement flingué mon syndrome de l'imposteur. C'est que j'ai des résultats et je vois que les personnes à qui j'enseigne ont des résultats aussi. Donc, à partir de là, c'est bon, le syndrome de l'imposteur.
C'est ça, tu es complètement légitime. Mais au début, je me souviens, au début, tu annonçais facilement tes chiffres, presque sans complexe. Tu disais, voilà, je gagne tant, etc. Et puis, petit à petit, on ne voyait plus trop de chiffres.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ?
Alors, j'ai commencé à parler de chiffres parce que, de toute façon, en fait, il faut savoir que si je faisais, comment dire, dans la vraie vie, je ne vais pas te dire aussi facilement les choses. Là, le fait d'être sur Internet, qu'on ne me voit pas, etc., ça me libère beaucoup à ce niveau-là, au niveau de la parole. Et je vends des formations pour apprendre à faire de l'affiliation, pour apprendre à créer une formation. À un moment donné, si je ne montre pas que ça marche pour moi ou pour mes élèves, qui va me croire ? Enfin, moi, si demain tu me dis Hello Emma, ça va ? Tiens, je vais te vendre une formation pour perdre 10 kilos en une semaine. Je vais dire Ok, d'accord, montre-moi parce que.
Oui. Je ne te crois pas trop, quoi. Ouais,
sinon, je ne te crois pas. Bon, après, là, j'ai pris un chiffre hyper exagéré, mais bref, peu importe ce qu'on te vend, tu veux voir que c'est vrai. Donc, j'étais obligée, entre guillemets, de montrer mes résultats. Et c'est vrai que je les montre moins aujourd'hui parce que malheureusement, en fait, j'ai remarqué qu'à partir du moment où j'ai communiqué sur mes résultats, c'est là où j'ai commencé à avoir des haters, les fameux haters. voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à sentir de la jalousie, où j'ai vu des gens qui m'ont tourné le dos du jour au lendemain, j'ai vu des gens m'attaquer gratuitement alors qu'ils ne me connaissent pas, qui remettre en cause mes bonnes intentions. J'ai eu quelques attaques qui m'ont blessée, clairement, que ça m'a fait du mal parce que quand toi tu fais quelque chose sincèrement avec le cœur, que ta démarche, elle est honnête, quoi, que t'es à fond dans ce que tu fais et que t'as vraiment envie du bien pour les autres et qu'on te prête des intentions qui ne sont pas les tiennes, quand on te taxe d'être quelqu'un que tu n'es pas, en plus, moi, je suis quelqu'un qui a tendance à se remettre en question pour tout et pour rien. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce que je suis vraiment personne qui décrive et que je m'en rends même pas compte ? Et dans ce cas-là, il y a un problème. Est-ce que, tu vois, tu te poses des questions ? Et à partir de là, en fait, après, en creusant un peu sur ce sujet-là, en lisant les parcours d'autres entrepreneurs qui avaient bien réussi, en fait, je me suis aperçue que finalement, c'est un passage obligé, malheureusement. Quand ton business ne fait pas trop de bruit, les gens s'en fichent de toi. Tu fais d'ombre à personne, tu gênes personne, c'est pas grave. Et puis, à partir du moment où tu réussis, où tu gagnes de l'argent, voilà, tu as soit des gens à qui, entre guillemets, tu fais de l'ombre et ça leur plaît pas, d'autres qui, auraient envie d'avoir ce que tu as, mais ne sont pas prêts à fournir les efforts que tu as fournis. Donc, plutôt que de se remettre la faute sur eux, que eux ne se font pas les efforts pour, ils vont juste te dire que c'est toi qui es une mauvaise personne et que eux sont bons et que c'est pour ça que eux n'ont pas.
Mais c'est, en France, on n'aime pas trop les réussites fulgurantes. Il faut un peu galérer quand même, je veux dire. Et comme t'as pas trop galéré,
j'ai pas trop galéré.
De l'extérieur, je veux dire.
Ouais. Tu vois, c'est-à-dire... Parce que j'ai pas galéré dans le sens où c'est vrai que, Dieu merci, jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, ça a marché tout de suite. C'est vrai là-dessus, Dieu merci, j'ai cette chance, entre guillemets, que tout a bien marché.
Maintenant, quand je te dis galère, je te parle de l'image française de la galère. Tu vois, c'est-à-dire que normalement, une entreprise, elle ne doit pas générer de revenus avant 2 ans. Ensuite, elle doit commencer à générer un SMIC. Et puis ensuite, elle doit commencer. Enfin, tu vois, ça, c'est l'image de l'entreprise ici. Et tu as même ici, dans des incubateurs de start-up, qui sont encore dans cette mentalité-là de, tu sais, pendant 2 ans, tu vas être à perte. Hein, faut pas espérer.
Oui, et tu sais que c'est marrant ce que tu dis là, parce que moi j'ai pas trop la culture start-up et tout entreprise, parce que je t'ai dit à la base je suis pas du tout là-dedans, donc je connais pas ce milieu-là, et encore moins en France vu que j'y ai pas été. Par contre, ce que j'ai remarqué en fait, moi, quand justement j'ai lancé ma formation Les Reines de l'Affiliation, ou même Les Reines de la Formation, tu vois, c'est que en fait la plupart des autres personnes que je connaissais qui avaient fait des formations dans ce style-là, tu vois, de lancer un business en ligne, monétiser, etc. En fait, dans toute leur formation, on leur expliquait que pendant 1 an, ils allaient créer du contenu gratuitement pour créer leur communauté, etc. Et que c'est au bout d'1 an qu'ils allaient commencer à pouvoir monétiser. Oui. Et moi, quand je voyais ça, je me disais, mais ils sont graveux. Avec l'affiliation, tu peux gagner de l'argent directement, même avec une petite communauté. Et puis après, tu fais ton entreprise au fur et à mesure. Et même si tu n'as pas une énorme communauté, moi, quand j'ai lancé ma formation Les Reines de l'Affiliation, j'avais 1600 abonnés sur Instagram, ce qui n'est pas énorme, c'est bien, mais c'est pas énorme. J'avais que 113 inscrits à ma liste email quand les formateurs assez connus recommandent qu'il faut en avoir 1000 pour lancer une formation. Ça m'a pas empêché de faire 21 000 euros de chiffre d'affaires à mon premier lancement au bout de 6 mois.
Finalement, ne pas avoir les indicateurs sur ce qui se dit, sur ce qui se fait, plutôt avoir les indicateurs sur toi et ce que tu ressens du marché.
C'est ça, quoi. Ton intuition. Ton intuition, quoi. En fait, le problème, je me dis, heureusement que j'ai pas croisé la route de ces gens-là avant. Oui. Parce que, du coup, si j'avais regardé ça, je me serais mis en tête, c'est comme ça. Il faut faire comme ça, passer 1 an à galérer avant de générer des revenus. Et du coup, si j'avais écouté ça, je serais rentrée dans ce moule-là. Alors que, on peut faire autrement. Alors, je ne dis pas que ce sera le cas pour tout le monde. Il y a des gens, il faudra 1 an. Il y a des gens, il en faudra 2. Parmi mes élèves, j'en ai vu plein qui, dès leur premier lancement, ils ont cartonné, quoi. Oui. Donc, en tout cas, il n'y a pas que... Je ne dis pas que ma façon de faire, elle est... tu vois, que ça va marcher à tous les coups pour tout le monde. Il n'y a aucune méthode qui marchera à tous les coups pour tout le monde, de toute façon.
Oui.
Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas qu'une méthode. Il n'y a pas que ma méthode. Il n'y a pas que la méthode d'attendre 1 an. Il y a plusieurs méthodes. Et l'important, c'est d'être en cohérence avec soi-même, d'être aligné, le fameux mot aligné.
Oui.
de faire confiance de suivre son intuition aussi et d'y aller à fond, quoi.
Oui, tout à fait. Et... Est-ce que tu as remarqué une différence de relation avec l'argent entre les hommes et les femmes? Est-ce que tu constates que les femmes ont plus de problèmes avec l'argent que les hommes?
Ah oui, ça c'est
Alors
sûr.
Pourquoi, à ton avis?
Ça je sais pas, je pense que c'est dans nos stéréotypes de vie depuis des millénaires que voilà, on est rentré un peu. Et même, tu vois, en France, les inégalités de salaire, etc., c'est ancré un peu, quoi. C'est dur de... Souvent, même quand tu vois le chef d'entreprise, c'est souvent un homme. Et les hommes, je ne sais pas, eux, c'est un peu les coqs, tu sais. Il faut montrer la grosse voiture, il faut montrer les grosses villas. Roule des épaules.
C'est vrai.
Et tandis que l'image de la femme, la bonne image, entre guillemets, on en revient à Brie, tu vois, de ce podcast où on parlait de Brie. C'est un peu ça, c'est être à la maison, faire des bons gâteaux et bien élever ses enfants. Voilà. Moi, en fait, ce que je veux avec Ambition Féminine, c'est de dire oui, on peut faire des bons gâteaux, on peut bien élever ses enfants, mais aussi, on peut aussi entreprendre.
Et oui, et gagner très, très bien sa vie. Et c'est vrai que, au début de l'interview, on a parlé de Desperate Housewives et des modèles qui font rêver les femmes. Et quand on regarde bien la série, on constate que donc ces femmes, elles ont des problèmes comme tout le monde, hein, et que les apparences, en fait, peuvent être trompeuses. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, justement, la discipline qui permet d'arriver à un chiffre d'affaires satisfaisant? Parce que je sais que tu es une grande bosseuse et que, oui, tu passes des nuits des fois, mais je me dis, mais comment elle fait? je me dis que tu es jeune, donc tu as encore la force physique. Et que bah, profites-en, quoi.
Moi, je t'avoue que ça devient aujourd'hui, j'y arrive plus. Aujourd'hui, j'y arrive plus. Mais en même temps, j'y arrive plus parce que je pense qu'au départ, j'étais tenue par l'adrénaline, oui. J'étais tenue par l'idée de pas le choix. Tu sais, quand tu es une maman, tu as cet instinct de protéger tes enfants. Oui. Et quand tu es dans une galère financière, en fait, tu dis, moi, mon stress, c'était, attends, imagine mes enfants, demain, je ne peux pas leur acheter à manger, je ne peux pas les habiller, imagine, je ne peux pas leur payer l'école. Et pour moi, ça, c'était inconcevable. Donc, tu as cette espèce de, tu sais, comme les histoires des mamans, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, j'avais entendu ça à une époque, une maman où son enfant était sous la voiture et en fait, elle a trouvé la force même de soulever la voiture.
Oui.
Alors, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai, mais pour moi, c'est ça, quoi. En fait, c'est quand tu es... en fait, tu te bats pas que pour toi, quoi. Tu te bats aussi pour ta famille, pour tes enfants, pour tes convictions. Parce que moi, il y avait aussi l'idée de... parce que ça aurait été très simple hein, de dire, bon, bah, on est dans la mouise. On prend un... Allez, papa, maman, vous pouvez me payer un billet d'avion. Je reviens en France. Hébergez-moi le temps que je retrouve quelque chose. Voilà, ça aurait été très simple de faire ça. Mais pour moi, c'était même pas concevable. Si je suis venue là, c'est parce que j'avais des convictions fortes de venir au Maroc. C'était un choix de vie. C'était pas une lubie, c'était un vrai choix.
Il fallait les assumer, quoi.
Exactement. Et surtout qu'en plus, bah, tu vois, on en revient un peu à ce côté d'ego. quand on est parti, notamment dans la famille de mon mari, parce qu'ils connaissent la réalité du Maroc,
oui.
Qui disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Nous, on s'est battu pour venir en France, on a galéré pour venir en France, pour vous offrir une vie correcte, vous offrir une sécurité, un confort, et vous, vous repartez, et vous allez galérer, là-bas, les salaires, c'est misère.
Mais je comprends tout à fait, parce que, tu sais, moi, je suis issue de l'immigration. Mes parents sont venus en France dans les années 70. Et si je leur annonçais aujourd'hui que je partais au Maroc, que je pars au Maroc, m'installer là-bas, ils auraient très peur, en fait.
Bah oui. Mais c'est normal, mais je ne leur reproche pas. Hein. C'est normal qu'ils aient eu peur. Mais il y a eu aussi des petits commentaires dont j'ai eu vent, tu vois, du style « Bof, tu parles, dans un an, ils seront de retour. Dans moins d'un an, ils seront de retour.
» C'était ça, sur ta détermination.
Et oui, et puis sur ce... Moi, tu me piques en me disant « Tu ne seras pas capable. » Alors là...
Ouais, voilà,
Comment ça, je suis pas capable? Alors là, fallait pas me dire ça. Tu me remontes comme un coucou et je vais tout faire pour te montrer que si je suis capable.
En fait, c'est ça ton secret, c'est ton caractère de
Mais tu sais que c'est vrai hein, parce que même en tu sais moi j'ai fait un bac STG. Mmh. Parce que j'ai été une adolescente un peu difficile. Donc, clairement, je faisais rien au collège, au lycée. Je glandais rien. Au début, ça passait parce que j'avais des facilités qui me permettaient de garder la moyenne et de passer. Mmh. Arrivé au lycée, ça n'allait plus du tout parce qu'en plus, je m'endormais sur la table des cours. Enfin, c'était vraiment l'ado cata, quoi. Après, j'ai fait un bac STG, du coup, parce que c'était, bah, j'avais pas le choix. De toute façon, il n'y avait que là où on m'acceptait. Donc, j'avais pas le choix d'aller en filière STG. Ce que je regrette pas du tout, d'ailleurs, parce qu'au final, c'était beaucoup plus... J'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus concret.
Pragmatique.
Mais bref, ouais. Et en fait, en STG, du coup, j'ai découvert le droit. J'ai bien aimé. Et j'ai dit, bah, je vais faire une fac de droit. Et tous mes profs, hein, ils disaient, mais toi, en fac de droit, mais jamais. Déjà, en fait, quand on est en STG, déjà, non, on fait pas du... Enfin, c'est des bacs généraux qui vont en droit. Et puis, tu n'y arriveras jamais. Enfin, t'es pas bête, mais t'es un peu une feignante, quoi. T'y arriveras pas. Et tu t'imagines bien que quand j'ai eu ma licence avec plus de 15 de moyenne, deuxième de ma promo, je suis retournée dans mon lycée et je leur ai dit, alors, il paraît que j'y arriverai pas.
Alors qu'ils t'avaient complètement oublié. Mais toi, en fait, ça t'avait mis...
Non, je peux te dire qu'ils ne m'avaient pas oublié parce que j'étais vraiment une élève qu'on n'oublie pas. Parce que... oui, j'étais un petit peu difficile, donc ils ne m'ont pas oublié. Et puis même la CPE m'avait dit, non, mais entre nous, elle me dit je suis super contente pour toi et c'est génial. Parce que moi, je lui avais dit, vous voyez, avec le discours que vous m'avez tenu, si je vous avais écouté, j'y serais pas allée et je n'aurais pas réussi. Donc faites attention à ce que vous dites aux élèves et encouragez-les quand ils ont envie. Et elle m'a dit, oui, mais entre nous, honnêtement, regarde comment tu étais à cette époque-là. Est-ce que objectivement, on aurait pu parier sur le fait que ça marche ? Et je lui dis, bon, j'avoue que non, pas c'est forcément. mais en tout cas, voilà.
C'est quand même, Emma, c'est vraiment très inspirant parce que j'invite plein de profils et c'est la première fois que j'ai un profil comme le tien. Donc, c'est super intéressant parce que, en fait, finalement, tous les profils peuvent réussir à leur manière. Et tout le monde a sa place dans l'entrepreneuriat et c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce podcast.
Ouais, et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre, en fait. J'ai vraiment envie de dire, mais même si on vous dit que c'est pas possible, même si ceci, lancez-vous et je dis pas que ça marchera à 100%, mais au moins, t'auras essayé. Et si t'essayes pas, comment tu peux... Et en fait, surtout, tu vois, il y a des gens qui se lancent dans quelque chose, ça ne marche pas. Mais en fait, le fait de s'être lancé dans cette chose, ça leur fait découvrir autre chose.
Exactement.
Et tu vois, en fait, chacun de nos échecs, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas d'échec, mais chacun de nos échecs va nous emmener vers un chemin sur lequel on ne serait pas arrivé si on n'était pas passé par cet échec.
Oui, c'est ça.
Donc,
tout à fait.
Moi, c'est ce que je me dis, c'est qu'il y a un bien dans chaque chose. Tu vois, quand moi, j'ai les galères que j'ai eues quand je suis passée maman au foyer, que franchement, j'étais vraiment en dépression en plus à ce moment-là. Au-delà de l'aspect financier, je me suis rendue, avec le recul, je me suis rendue compte à quel point j'étais, et même ma mère le voyait, elle me le disait, mais j'étais en dépression, clairement, en dépression. Mais en fait, toutes ces difficultés-là, c'est ce qui m'a amené à qui je suis aujourd'hui et à ce que je fais aujourd'hui. Donc, merci, je suis contente d'être passée par là. Et comme je suis contente, tu vois, en France, que finalement, moi, je travaillais, je gagnais bien ma vie, j'étais bien vue dans mon entreprise, j'étais amenée à bien évoluer. Mais voilà, quand j'ai décidé de porter le voile, c'est comme tu sais très bien qu'en France, voile, travail, c'est pas du tout compatible.
Ouais, donc, c'est j'ai compliqué, renoncé. Ouais.
Voilà, donc j'ai renoncé à travailler pour mes convictions. Et finalement, ce qui aurait pu, et ce que notamment mes parents voyaient comme un échec, oh, comment ça, notre fille, elle a fait des études, elle était super bien
dans son boulot. Ce qui est compréhensible.
Ce qui est totalement compréhensible. Attends, ça fait flipper pour les parents. Je comprends tout à fait. Et tu laisses tout. Et donc, ça peut être vécu comme un échec, mais... Au final, en fait, c'est pas un échec et ça m'a amené à ça. Et jamais j'aurais imaginé dans ma vie trouver un job aussi épanouissant dans lequel je me sens aussi bien.
Ah ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux que ce qu'on crée soi-même et de parfaitement, je dirais, ergonomique à notre vie. Après, ça demande du travail, ça, c'est sûr. Et ça demande du courage, beaucoup de courage aussi. Il faut y aller.
Et de la détermination.
De la détermination. Et il ne faut pas trop se poser de questions.
Mais pour moi, en fait, il faut vraiment se dire. Si on a des choses qui nous tiennent à cœur, comme moi, c'était... en fait, dans la vie, on croit toujours qu'il faut choisir. Soit tu portes ton voile, soit tu travailles. C'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. Soit tu t'occupes de tes enfants, soit tu travailles, mais c'est pas les deux.
Il n'y a rien de binaire.
Et moi, au départ, j'étais vraiment persuadée de ça. C'était pour moi, c'est l'un ou l'autre. C'est comme
c'est
ça, il faut faire un choix.
Social, c'est le conditionnement social, donc forcément...
Et sauf que non, en fait, je me suis aperçue qu'on peut ne pas choisir. Et avec l'entrepreneuriat, ça te permet d'assumer tes choix, d'assumer tes valeurs. Et ça, pour moi, en fait, quand tu découvres ça, tu peux que être enthousiaste et déterminé à partager ton message et à ne rien lâcher, quoi, parce que c'est génial.
C'est vrai, tout à fait. Emma, aujourd'hui, je vais inaugurer avec toi un nouveau jeu, puisque d'habitude, je demande les trois conseils pour avoir un mental d'entrepreneur sain. Mais j'avais envie de tenter une nouvelle expérience avec mes invités. Et est-ce que tu te connais bien, Emma ?
Je pense.
Est-ce que tu pourrais facilement parler de toi ? J'imagine.
Oui et non, pas forcément. En fait, ça dépend de sur quel terrain.
Sur quel terrain ? Alors, on va supposer qu'en face de toi, tu as 10 000 personnes qui sont venues te voir dans une salle.
Parler derrière un micro, il n'y a pas de problème. Et tu me mets devant un public, je deviens toute rouge.
Alors, combien de followers tu as sur Instagram, juste pour savoir
13,7.
C'est l'équivalent, à peu près. Tu sais, quand tu mets tes stories, on va supposer que c'est pareil. C'est 13 000 personnes. et que tu dois convaincre ces 13 000 personnes de travailler avec toi. Alors, ces gens-là ne te connaissent pas et tu dois les pitcher en 3 minutes.
Ouais. Alors, la question, exercice très compliqué.
Oui, la question qu'ils te posent, c'est tu dois leur raconter les 3 histoires de ta vie qui te caractérisent le plus. Est-ce que tu es prête ? Je lance le chrono.
Vas-y. Alors, première histoire, quand je suis devenue maman. Quand je suis devenue maman, ce rêve que j'avais depuis toute jeune, et je pensais que tout allait être merveilleux, tout allait être simple, tout allait être beau. Et en fait, ça a été au moins les 3 premiers mois, mais sûrement plus, ça a été les moments les plus difficiles de ma vie. J'ai cru que j'allais mourir. Tellement. Non, mais c'est vrai, en plus, je ne dis pas ça au second degré, vraiment. En fait, j'étais tellement épuisée, tellement hors de contrôle que je pensais vraiment que j'allais mourir. Et je disais à mon mari, si je meurs, s'il te plaît, fais ci, fais ça. Parce que je dormais plus, je mangeais plus, j'étais et en fait finalement je me suis rendu compte que je croyais qu'être maman ça allait être instinctif et ça l'a pas été pour moi.
Oui.
Donc ça a été une vraie difficulté. En plus je voyais, j'avais une copine qui avait accouché juste avant moi et pour elle tout semblait tellement fluide. Et je me disais, mais pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi moi c'est dur? Pourquoi quand elle attirait 120 millilitres de lait au tire-lait, moi je galérais, je pompais pendant une heure et je sortais 20 millilitres, j'arrivais à rien sortir. C'était vraiment difficile.
Oui.
Jusqu'au jour où j'ai discuté avec une autre personne qui m'a dit, mais en fait, non, c'est normal, être maman c'est dur, c'est difficile, je comprends. Écoute-toi, fais-toi confiance, écoute ton instinct. Et ça, ça a été certainement un des... Je revois cette scène parce que c'était un moment, voilà, c'était un moment... voilà, le jour où je me suis sentie comprise et qu'on m'a dit de me faire confiance, ça a tout changé. Ça a tout changé. Je me suis fait confiance en tant que maman. On me disait d'arrêter d'allaiter, que j'y arriverais pas, qu'il fallait donner des biberons. J'avais commencé à écouter ce conseil-là. Et au final, en fait, à partir du moment où on m'a dit fais-toi confiance, j'y croyais, j'avais envie d'allaiter, j'ai continué. Et au final, j'ai réussi à stopper complètement les biberons au bout de quelques mois et j'ai allaité ma fille jusqu'à ses 13 mois. Après, j'étais enceinte, donc j'y arrivais plus. Mais donc j'ai tenu ce combat jusqu'au bout. Pareil pour ma deuxième fille, on me disait non, elle est trop maigre. Arrête, donne-lui du biberon avec de la farine dedans. Non, ma fille était en bonne santé, le médecin me disait qu'elle était en bonne santé, je voulais allaiter, donc je l'ai allaité plus de 2 ans et ça, c'est des grosses victoires pour moi. Donc, morale de cette histoire, faites-vous confiance, allez au bout de ce que vous voulez, écoutez votre instinct en tant que maman ou n'importe quoi d'autre, sinon vous savez mieux ce qui est bon pour vous, pour votre enfant.
Exactement, il reste 30 secondes, Emma.
Deuxième histoire, et écoute, je sais même plus, attends les 30 secondes, attends, je sais même plus ce que je voulais dire en deuxième histoire. Je sais même plus. Ah oui, ma deuxième histoire, c'était quand j'ai décidé de partir au Maroc, mais j'en ai déjà un peu parlé dans ce podcast, donc je peux être brève. Pareil, ça a fait peur notre entourage, on ne croyait pas forcément à notre projet. Et pareil, quand on a des convictions, quand on a un pourquoi fort, on peut aller jusqu'au bout. Et troisième histoire, quand tout s'est cassé la figure pour nous et que on a pu rebondir parce qu'en cherchant jour et nuit des solutions, j'ai fini par trouver les métiers du web et ça a été une vraie révélation pour moi. Donc vraiment.
T'arrives à aller à l'essentiel quand même hein, quand on te met la pression.
C'est ça.
Allez, on va dire que t'as réussi, t'étais dans les 3 minutes 10. Donc c'est bon. On se souviendra de toi à travers ces 3 histoires. Emma, merci beaucoup pour ce moment intense que tu nous as fait partager.
Merci à toi de m'avoir laissé la parole sur ces sujets parce que on me propose souvent des interviews sur l'affiliation, des choses comme ça. Et là, je trouve que c'était intéressant. Ça m'a permis de parler de sujets peut-être un peu plus profonds, plus personnels. Mais ça fait du bien aussi de délivrer ces messages-là.
C'est un plaisir énorme pour moi d'entendre ça. Donc, pour moi, j'ai réussi l'interview. Merci beaucoup. Dis-moi, Emma, pour les personnes qui ne te connaissent pas, où est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi ? Où te suivre ?
Alors, on peut me trouver sur mon blog, donc ambitionféminine.com. On peut me trouver aussi sur Instagram, @ambitionféminine.
Très bien. Écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Je suis de près ton évolution professionnelle et je te dis à très bientôt. Prends soin de ton mental, Emma.
Merci à toi aussi et très bientôt.
Merci.
Développer sa détermination est propre à chacun d'entre vous.
certaines auront des caractères naturellement fonceuses et d'autres plus cool. Ce que j'ai appris dans cet échange avec Emma, c'est que quand on a besoin d'argent et que le besoin est vital, la question ne se pose pas. On va chercher de l'argent parce qu'on en a besoin. Quand c'est une situation d'urgence, on a tendance à moins réfléchir et à être plus dans l'action. Même si Emma a une relation décomplexée à l'argent, elle a dû composer avec la mentalité dominante en France. Ce sujet est encore très tabou et exposer son chiffre d'affaires sans retenue peut amener à certaines déconvenues. Par la suite, la question de la légitimité s'est posée pour Emma, car comme dans tout nouveau lancement, la peur de ne pas convaincre les clients existe toujours. Elle s'est appuyée sur un argument qui révèle sa confiance en elle. Si ça a marché pour elle, ça doit forcément marcher pour les autres. Elle a rapidement réussi à générer des revenus en recommandant la formation d'autres infopreneurs. Elle a donc tout simplement mis à disposition de ses clientes ses propres techniques éprouvées. Par la suite, les résultats de ses clientes ont prouvé que sa façon d'enseigner était la bonne. Je trouve que c'est une très bonne façon d'aborder votre travail. Si vous avez testé des méthodes qui ont fait leurs preuves, vous pouvez vous appuyer sur cette autorité pour justifier la légitimité de vos produits ou de vos techniques. J'attire juste votre attention sur quelque chose d'important. Une méthode, lorsqu'elle marche pour vous, peut ne pas marcher pour les autres pour différentes raisons. L'état d'esprit n'est pas le même, la façon d'aborder les gens n'est pas la même, la perception des choses n'est pas la même. C'est pour ça qu'il est important d'envisager plusieurs types de profils clients pour créer un produit qui s'adapte au maximum de personnes, et pas seulement à vous. La transmission du savoir-faire dans l'infopreneuriat est un travail difficile parce qu'il ne faut pas considérer votre cas pour une généralité. C'est la même problématique qui se pose dans l'enseignement. La question de la didactique et de la transmission des savoirs en fonction de la diversité des profils étudiants. Un cours de maths, on peut l'aborder de différentes manières pour permettre au maximum de personnes de comprendre le cours. Pour l'infopreneuriat, c'est pareil. Essayez d'imaginer comment sont perçus et compris vos cours et faites en conséquence. Emma a montré un élément essentiel dans l'entrepreneuriat, c'est cette notion de responsabilité. Lorsque son expatriation a tourné au vinaigre, elle aurait pu, comme elle a dit, rebrousser chemin et choisir la facilité en appelant papa-maman à la rescousse. Mais elle a pris le parti de tenter l'aventure entrepreneuriale en assumant ses choix d'expatriation et en faisant comme s'il n'y avait pas d'autre solution possible. C'est cette responsabilité de devenir indépendante financièrement qui a mis un terme à l'appel de l'assistanat. Vouloir entreprendre, c'est vouloir viscéralement devenir indépendante financièrement, quel que soit le niveau de cette indépendance financière. Et ça sera mon conseil du jour. Posez-vous la question de savoir jusqu'où va votre volonté de devenir indépendante, aussi bien financièrement que mentalement, et êtes-vous prête à en prendre la responsabilité ? Prendre cette responsabilité demande à se détacher de toutes ces bouées de secours mentales qui vous empêchent d'aller au bout de vos projets. Si vous êtes dans un environnement hostile à la sécurité financière, vous n'aurez peut-être pas d'autre choix que de foncer. Mais si vous êtes dans un environnement où vous avez toujours la possibilité de vous retourner, demandez-vous si votre esprit ne fixe pas trop ses solutions au cas où et essayez de faire en sorte d'ignorer ces possibilités. Certaines personnes sont rassurées par des issues de secours et cela leur donne confiance d'avancer sereinement. Et pour d'autres, ça peut être un frein au développement de votre potentiel car vous êtes au minimum de votre possible. Voilà pour mon analyse du jour. J'espère que ce sujet vous aura aidé à avancer. On se retrouve au prochain épisode de Vocation Entrepreneur pour aborder des sujets encore plus passionnants. Si vous aimez mon contenu, allez vite me donner votre avis par mail sur hello@vocationentrepreneur.com ou un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme préférée ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et auprès de votre entourage. Et n'oubliez pas, prenez soin de votre mental.